Lumière sur un film. Lumière sur un film avec Marie-Louise et Pauline.
Bonjour à tous.
Bonjour à tout le monde.
Et bienvenue sur l'émission Lumière sur un film. Donc c'est une première pour nous, première émission. Et qu'est-ce que Lumière sur un film ?
Chaque semaine, on va vous présenter un film qu'on va commenter avec un regard chrétien.
On va vous donner nos impressions, nos ressentis, et vous donner envie ou pas de voir ce film.
Donc on commence aujourd'hui avec le film Mission.
The Mission, c'est un film qui a été réalisé par Roland Joffé en 1986 et a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes de cette même année. Et il a reçu aussi de nombreuses autres distinctions.
Il fait aussi partie de la liste des 45 films considérés importants par le Vatican. Donc liste qui a été émise en 1995 sous le pontificat de Jean-Paul II. On vous recommande chaleureusement de consulter cette liste sur Internet.
Et là tout de suite, petite introduction pour vous parler du réalisateur Roland Joffé.
Donc Roland Joffé est né en 1945 à Londres. C'est un cinéaste engagé dont le but principal est de susciter la curiosité intérieure du spectateur en posant des grandes questions existentielles, comme notamment dans Mission.
Alors là, le contexte historique pour le film The Mission, ou Mission. Donc il faut savoir qu'il y a eu la guerre des Guaranis entre 1754 et 1756, donc au XVIIIe siècle. Et ils sont partis évangéliser, donc le peuple Guarani, qui se trouve entre les territoires argentins, brésiliens et les territoires du Paraguay, donc au fin fond de l'Amazonie.
Donc dans ce contexte, le frère Gabriel, missionnaire jésuite, se rend dans la région, chez les Guarani, dans le but de les évangéliser. Il y fonde une mission, aux abords de laquelle il fera la rencontre de Mendoza, mercenaire et vendeur d'esclaves. En toile de fond, l'Espagne et le Portugal se disputent les territoires de la région, et le pouvoir ecclésial, représenté par le cardinal Altamirano, se trouve au cœur des négociations, en arbitre.
Donc c'est quand même assez fort ce qui se passe dans ce film, et dans ce contexte actuel, en fait, en état de guerre. Il y a les Espagnols et les Portugais qui se disputent les territoires et les Jésuites qui sont partis évangéliser.
Marie-Louise, dis-nous un petit peu tes impressions sur ce film.
Alors moi, je vais parler du début. J'ai été touchée parce que le film commence. Donc là, je peux en parler, on ne va pas spoiler le film. Mais là, c'est vraiment le début, c'est les deux premières minutes. Là, on voit un prêtre qui se fait tuer par les Guaranis. Et malgré le fait que le prêtre jésuite se soit fait tuer, il y en a trois autres, après l'avoir enterré, qui décident d'aller évangéliser les Guaranis. Et je trouve ça très fort, en fait. Très fort de se dire, bah, ils traversent des cascades, escaladent des falaises, des montagnes, pour aller parler du Christ à un peuple autochtone au fin fond de la forêt amazonienne. Et c'est vraiment beau, parce qu'ils passent au-delà des apparences en disant, bah, voilà, c'est pas des simples autochtones qui comprennent rien, on va les laisser au fin fond de la forêt, et tant pis. Non, ce sont des âmes à gagner. Et je trouve ça très fort.
Il y a une scène notamment très symbolique, donc en début de film, qui est la scène où le frère Gabriel fait la rencontre pour la toute première fois des Guarani, donc au milieu de la jungle. Il arrive près des Guarani, donc bah, en étant un petit peu stressé quand même, étant donné le sort qu'ils ont réservé donc à son frère qui est venu essayer de les évangéliser avant lui, comme tu disais, Marie-Louise. Donc on a un gros plan sur le visage du frère Gabriel, voilà, où on voit qu'il n'est pas très tranquille. Et voilà, c'est une très belle scène parce que donc ils ne peuvent pas communiquer entre eux puisque le frère Gabriel ne parle pas encore leur langage. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc sortir son instrument de musique, une flûte, et commencer à jouer donc pour démontrer aux Guarani qu'il ne représente pas une menace pour eux et qu'il veut qu'il vient avec des bonnes intentions.
Et c'est beau parce qu'il tisse ce lien à travers la musique, à travers la flûte. En jouant un instrument, c'est comme ça qu'il intègre voilà, la communauté du peuple, enfin le peuple Guarani. Alors là, on va vous présenter un extrait.
Ils disent qu'ils ne saisissent pas vos paroles. Ils demandent que vous disiez plus clairement ce que vous voulez qu'ils fassent au juste.
Ils doivent quitter la mission.
Alors là, qu'est-ce qui se passe dans cet extrait ? Donc c'est le cardinal qui parle au peuple guarani avec un, pour intermédiaire, un jésuite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après l'histoire de la flûte? Bon, beaucoup de choses. Donc, les jésuites sont pleinement intégrés. Mais il y a un tiraillement, un conflit. Il ne faut pas oublier que les Espagnols et les Portugais se disputent le territoire. Et le cardinal a dû intervenir.
Là, en fait, on est dans un contexte vraiment de rupture, en fait, entre d'un côté la colonisation par les États et d'un autre côté l'évangélisation par les jésuites. Et en fait, il ne faut pas oublier que, donc là, on se trouve sur le territoire sud-américain, mais qu'en Europe, l'Église est déjà en perte de vitesse en ce qui concerne son influence, puisque les États, déjà à cette époque, sont de plus en plus indépendants dans leur prise de décision et prennent de moins en moins en compte l'Église. Et donc, le cardinal Altamirano est dans cette position où à la fois, il est chef... donc dans l'Église et donc chef des missionnaires, mais en même temps il doit composer avec les États qui ont donc ce pouvoir terrestre et qui sont donc en recherche de territoire, voilà, dans le cadre d'une colonisation, tout ce qu'il y a de plus terrestre.
Exactement. Et le cardinal est sous pression. Il est sous pression. Donc qu'est-ce qui va se passer? Arrêter la mission, c'est vraiment arrêter, ne plus évangéliser, plus d'Église, plus rien. Stop. On arrête tout. Et le peuple guarani ne l'entend pas de cette manière-là. Donc, n'est pas d'accord avec ce que dit le cardinal. Et c'est vraiment très fort. On ne va pas vous expliquer, on ne va pas vous spoiler pour savoir qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que finalement le cardinal s'est rétracté? Est-ce que finalement il y a eu un changement d'avis des Portugais et des Espagnols en se disant, bon, on laisse la mission ou pas? Donc là, autre extrait du cardinal qui débute par un chant chanté par les Guarani. Un Ave Maria.
Et si je savais que partout en Europe, les États s'attaquaient à l'autorité de notre Sainte Mère, l'Église, et si je savais mieux encore que pour se protéger là-bas, l'Église devait faire montre de son autorité sur les jésuites d'ici, je ne pouvais pourtant m'empêcher de me demander si ces Indiens n'eussent pas préféré que les vents de la mer n'aient permis à nul d'entre nous d'aborder leur rivage.
Un extrait extrêmement fort.
Ouais, c'est impressionnant. Donc là, on entend la réflexion interne du cardinal qui en vient, malgré ses grandes responsabilités au sein de l'Église et notamment pour diriger cette mission pour évangéliser les Guarani. Avec tout le contexte, il en vient presque à se demander si finalement il n'aurait pas été mieux de tout simplement ne jamais y mettre les pieds. C'est quand même assez impressionnant.
C'est très fort. De se dire qu'il y a un tiraillement en fait en lui, mais après c'est un peu normal entre les pensées du monde et les pensées plutôt spirituelles liées à l'évangélisation et de Dieu. On voit clairement que ça ne colle pas et ça crée un tiraillement. Et là, on va vous présenter un dernier extrait.
Mon père, je suis venu vous demander de me bénir. Non.
Voilà pour cet extrait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en contexte de guerre, voilà, comme on l'a déjà dit, une personne demande une bénédiction, demande au prêtre de le bénir. Sachant qu'il va commettre quelque chose, un péché, donc quelque chose d'irréparable, quelque chose de grave après. Et là, le prêtre dit non. Et j'ai trouvé ça très fort, en fait. On ne peut pas bénir le péché, on ne peut pas bénir le péché. Donc, j'ai trouvé ça très fort.
Oui, c'est en fait le frère Gabriel qui prend cette décision courageuse, malgré tout, de refuser cette bénédiction qui va contre sa conscience. Parce qu'il n'oublie pas que, quel que soit le contexte, une guerre, même si elle peut être considérée juste par les hommes, s'il y a du péché, on ne bénit pas.
Et là, on va terminer par la musique d'Ennio Morricone.
Ennio Morricone, donc grand compositeur qui a notamment travaillé sur d'autres films, surtout des westerns, comme par exemple Le Bon, la Brute et le Truand, ou encore Il était une fois dans l'Ouest, film que nous vous recommandons par ailleurs de voir aussi.
Pauline, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Qu'est-ce que tu en as pensé du film?
Alors, les mots avec lesquels je repars après avoir vu ce film, ce sont les mots « libre arbitre », tout simplement parce que chaque personnage va vraiment être confronté à une prise de décision qui très grave, qui va probablement engager la vie et la mort. mais chaque personnage reste toujours libre de prendre la décision qu'il souhaitera, en conscience. Et toi, Marie-Louise ?
Moi, je dirais le mot miséricorde. Miséricorde et pardon. Parce qu'il se passe de belles choses, en fait, dans ce film. Et en lien aussi avec le mercenaire. Merci à tous.
À bientôt.